franceinter.fr.
Une gigantesque cavité vient d'être découverte dans la grande pyramide de Khéops, une publication dans la revue Nature qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui à la une de la science.
Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus.
Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides.
Des trucs pointus, là.
C'est quoi ? De la gnognotte ?
Oui, enfin, ça date pas d'hier, hein.
Voilà, la pyramide de Khéops, la plus grande des pyramides de Gizeh au Caire, construite il y a 4500 ans et depuis le Moyen-Âge, l'intérieur de ce tombeau, sondé dans le but de révéler ses secrets. Eh bien, on continue justement d'aller de surprise en surprise et on discute de cette cavité géante, Axel, avec un de ses co-découvreurs.
Oui, on est en studio avec Mehdi Tayoubi, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur du consortium Scan Pyramides, vous avez travaillé avec l'université du Caire sur cette découverte. Alors, on a tout lu cette semaine dans la presse, chambre, vide, trou, cavité, galerie secrète. Comment il faut l'appeler ce grand quelque chose que vous avez découvert ?
Alors, ce grand quelque chose que l'on a découvert, nous l'avons simplement baptisé en anglais le Scan Pyramids Big Void.
Donc le vide.
Un grand vide. On a un grand vide au-dessus de la grande galerie.
On ne peut pas aller plus loin du tout.
En fonction des analyses que l'on a obtenues grâce à la muographie, aujourd'hui, il est compliqué de donner un terme architectural à ce vide. Et donc, c'est pour ça qu'on a préféré, par précaution, de
c'est
toute
ça.
Façon...
Vous êtes très précautionneux quand
on
même.
On est très précautionneux parce qu'on sait que la pyramide génère énormément de fantasmes, beaucoup de théories alternatives, de folies sur Internet et ailleurs. C'est une mission en plus qu'on a conçue dès l'origine avec le professeur Aniel Hall, sans égyptologue, parce qu'on voulait avoir un nouveau regard sur cette pyramide. Mmh. Et donc, on n'est pas allé marcher sur les plates-bandes des égyptologues et des spécialistes en architecture ancienne.
Alors, où il se situe ce grand vide par rapport aux autres structures qu'on connaît de la Grande Pyramide à l'intérieur ?
Alors, la Grande Pyramide, il faut savoir que la plupart des structures que l'on connaît de la pyramide de Khéops ont été découvertes au Moyen-Âge par le calife d'Al-Mamoun. Quand on arrive dans la pyramide, on pénètre par un couloir qui s'appelle le couloir d'Al-Mamoun, qui a été creusé car il devait sans doute chercher un trésor. Ensuite, on emprunte un certain des corridors baissés, courbés. On arrive ensuite dans la Grande Galerie, qui est une sorte de fine cathédrale interne qui mesure 8 mètres de haut et 47 mètres de long. Qui peut nous mener vers la chambre de la reine, que les touristes ne peuvent pas visiter, et ensuite vers la chambre du roi à 43 mètres, qui est ce parallépipède absolument parfait, fait de granit venant d'Assouan. Et donc toutes ces structures internes, et on les connaît depuis le Moyen-Âge, et la coupe de la pyramide, si on voit les coupes de vivants de nom, l'expédition napoléonienne, on a à peu près la même aujourd'hui. Au 19e siècle, on découvre les chambres de décharge au-dessus de la chambre du roi, et depuis... plus grand chose, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'hypothèses de chambres secrètes à droite, à gauche, et si on s'amusait à les superposer les unes aux autres, ça donnerait un énorme gruyère, et d'où l'idée de monter cette mission pluridisciplinaire, avec de nouvelles technologies, d'aller chercher ces petites particules cosmiques que sont les muons, pour voir si elles peuvent nous éclairer sur ce monument.
C'est ça votre technologie alors ? Utiliser les particules ?
Oui, alors c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Dans les années 60, le professeur Alvarez, prix Nobel de physique, avait eu l'idée d'utiliser les muons pour radiographier des monuments massifs, puisque ça marche exactement comme les rayons X. En fonction de la densité que ça va traverser, on obtient de l'imagerie, sauf qu'on ne peut pas utiliser de rayon X sur une pyramide. Ouais. Et donc Alvarez, dans les années 60, fait une manip déjà dans Khéphren. Nous sommes 50 ans plus tard, les détecteurs ont fait énormément de progrès, les calculateurs aussi, les logiciels aussi, et donc il était temps de réessayer.
Ouais. Et cette méthode ne me permet pas de dire si c'est une architecture, un défaut de matière, un éboulement ou autre chose, ça, on ne peut pas aller plus loin que ça du tout.
Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'en octobre 2016, on avait déjà annoncé la découverte d'un autre vide, d'une autre cavité, sur la face nord de la pyramide, dans ce que l'on appelle la zone des chevrons. À l'époque, on l'avait représenté scientifiquement de la même manière, c'est-à-dire juste un nuage de points, car on n'avait aucune idée de la forme que pouvait avoir cette cavité. Pendant toute l'année, nous avons triangulé en fait cette cavité en disposant d'autres détecteurs de muons dans le couloir d'Al-Mamoun, dans le couloir descendant. Et aujourd'hui, à partir de toutes ces données-là et les imageries qu'on a obtenues et des analyses statistiques, on peut dire que c'est un couloir, qu'il a une forme de couloir. Mm-hmm. On sait de combien de mètres il s'enfonce, on sait à peu près les dimensions qu'a ce couloir. Et il faudrait faire en fait le même type aujourd'hui d'expérimentation avec d'autres plaques à muons positionnées ailleurs dans la pyramide pour pouvoir commencer à converger vers une forme architecturale. Mais la publication qui est parue la semaine dernière dans Nature ne confirme pour l'instant que la présence de ce vide. Et la force en fait de cette annonce, c'est qu'on a trois équipes indépendantes, l'Université de Nagoya, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives français et le KEK qui valident chacun avec leur méthode de muographie la présence de ce vide.
Alors vous l'avez dit, les égyptologues n'ont pas travaillé avec vous pour cette publication. Comment ils ont réagi depuis ? Ça fait une semaine, vous avez reçu beaucoup de mails, des coups de fil ?
Mais le coup de fil, non. Il y a eu quelques réactions, on va dire, médiatiques de certains égyptologues emblématiques, spécialistes des pyramides. Donc, aujourd'hui, ce qu'on attend de ces égyptologues et des spécialistes de l'architecture, c'est qu'ils nous aident, en fait, à interpréter ce que pourrait être ce vide. Ce qui a été annoncé, c'est-à-dire des différences de densité, petite pierre, grosse pierre, c'est pas possible scientifiquement, puisqu'on est dans une zone réellement circonscrite et le volume de vide, en fait, détecté qui est équivalent à celui de la Grande Galerie en termes de statistiques ne permet pas de dire que c'est en fait juste une zone de sous-densité, c'est réellement un vide. Ils ont avancé l'hypothèse d'une zone de décharge pour essayer d'alléger la Grande Galerie. Alors, je suis pas spécialiste en architecture, mais la Grande Galerie étant encorbellement, elle supporte déjà son propre poids, donc faire un vide au-dessus lui-même, alors, ça semble... Voilà, mais aujourd'hui, on est ouvert, en fait, à la discussion, à la simulation de différentes hypothèses, et surtout, il va falloir pour l'équipe disposer d'autres dispositifs de myographie pour essayer d'apporter d'autres éléments sur la forme architecturale. Et il n'est pas dit que le couloir qu'on a découvert sur la face nord ne soit pas connecté aussi à ce grand vide, mais aujourd'hui, il est trop tôt pour l'annoncer.
Ce grand vide, c'est quoi ces mensurations, alors, exactement ?
Alors, on sait qu'il mesure 30 mètres de long minimum. Ouais. On sait qu'il a une section transversale équivalente à la Grande Galerie. Donc la Grande Galerie, le volume de vide de la Grande Galerie, c'est 600 mètres cubes. On sait donc que ce vide, d'un point de vue statistique, est comparable en termes d'excès de muons que l'on reçoit à celui de la Grande Galerie, mais on ne sait pas si on le voit dans son ampleur ou si on n'en voit qu'une partie. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est simplement... C'est réellement un big void, un grand vide.
Est-ce qu'on peut commencer à imaginer des moyens d'y aller, je ne sais pas, avec des technologies, des robots ?
Alors, l'INRIA et le CNRS français ont rejoint la mission Scan Pyramides et on a mis en place un partenariat avec l'Université du Caire et l'Institut HIP. Et l'objectif, en fait, est de réfléchir à des moyens minimalement invasifs, c'est-à-dire concevoir des robots capables d'entrer dans un trou de 3 cm et d'explorer des espaces tridimensionnels. C'est une mission qui, certes, nous fait avancer sur la connaissance de la pyramide, mais par tous les imaginaires, en fait, qu'elle va aussi drainer par rapport aux ingénieurs et aux scientifiques qui nous rejoignent, ça nous permet aussi de faire avancer la technologie.
Petite question pour finir, quelle épaisseur de pierre il faudrait traverser pour rejoindre ce trou ?
Alors ce trou, il est à plus de 10 mètres de la Grande Galerie, donc ça semble peu réaliste d'y accéder pour l'instant. En revanche, le couloir qui se trouve derrière la face nord des chevrons est vraiment très très près de la face, et si un jour une exploration devait démarrer, c'est par là qu'elle devrait commencer, sans doute.
Hubert Reeves et Trinxenthuen, cette méthode donc à base de muons, vous en avez entendu parler il y a très longtemps.
Quand j'étais étudiant aux États-Unis, c'était le moment où on l'annonçait.
Déjà mais pour les pyramides ?
Oui, ben en particulier, on parlait de la technique et on parlait des objectifs, mais ça restait un peu un rêve. On se disait, c'est possible, mais est-ce qu'on y arrivera ? Alors là, c'est une bonne nouvelle d'apprendre que 60 ans plus tard, c'est en mars.
Trinxenthuen ?
Oui, j'en ai entendu parler aussi, et bien sûr, les rayons cosmiques jouent un grand rôle, parce que ça signale aussi la mort des étoiles massives, donc c'est en mourant qu'ils éjectent tous ces fluides rayons cosmiques dont quelques particules viendront frapper la Terre.
Voilà donc cette technologie à l'origine de cette découverte importante qui fait l'objet de cette publication dans Nature et qui va se poursuivre évidemment parce qu'on a envie d'en recevoir plus et c'est tout le travail qui va être réalisé. Donc là en l'occurrence par des physiciens, hein, on l'a bien compris, et non pas par des égyptologues. Merci beaucoup Mehdi Taïoubi pour ces précisions et puis Axel, on se retrouve demain
avec
une nouvelle une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le vaccin de la grippe en 2016 qui n'a protégé que 20 à 30% des personnes qui se sont vaccinées. Une étude publiée lundi montre qu'une mutation de la souche H3N2 a grandement amoindri la protection du vaccin. Le cocktail de cette année 2017, élaboré de manière similaire à partir d'œufs de poule, pourrait subir le même sort, selon les auteurs de ce travail. En effet, les protéines vaccinales cultivées dans les œufs sont moins aptes, selon l'étude, à neutraliser les versions mutées du virus. Les auteurs américains de cette étude plaident pour un changement rapide donc de mode de production des vaccins contre la grippe. Quand les mammifères sortaient de la nuit après l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, le nombre et la diversité des mammifères a littéralement explosé sur notre planète et on comprend aujourd'hui que ces animaux sont également sortis de la pénombre à ce moment précis, passant d'une existence nocturne, secrète et cachée des prédateurs à une vie diurne, foisonnante et diverse. Une étude génétique de plus de 2500 espèces de mammifères actuelles montre que les premiers mammifères diurnes seraient apparus il y a environ 65 millions 5,5 1,8 million d'années, quelques centaines de milliers d'années, donc seulement après l'extinction des dinosaures. Et puis pour terminer, de mauvaises nouvelles pour les voyages habités dans l'espace, puisque selon la NASA, l'absence de gravité et les rayons cosmiques ont des effets néfastes sur le cerveau et sur le système nerveux, même si des protections anti-rayonnement peuvent protéger contre les premiers effets. L'absence de gravité perturberait l'écoulement du liquide céphalo-spinal, à l'origine de problèmes de vue. La pesanteur entraîne un déplacement du cerveau vers le haut de la boîte crânienne qui n'est plus soumis à son propre poids et avec une perte de matière grise en prime. Plus le séjour est long et plus les dommages constatés sur les astronautes étudiés sont importants.